RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01 TV, vous le savez, en vidéo et puis à la radio sur RMC le dimanche matin pour votre rendez-vous de quoi je me mail. De quoi je me mail que vous pouvez retrouver en audio d'ailleurs dès le vendredi soir sur l'appli RMC et sur les principaux agrégateurs de podcasts. Je suis très heureux de vous retrouver bien sûr avec au menu de ce de quoi je me mail tout à l'heure. Une société française qui est une pépite et qui parfois fait trembler les grands constructeurs de smartphones. Il s'agit de DxO. DxO est basé à quelques kilomètres d'ici et teste en fait des composants de smartphones d'Apple, de Samsung, de Huawei et ils rendent leur verdict. C'est passionnant et tout à l'heure je recevrai le patron de DxO qui nous expliquera ce qu'ils font et comment ils arrivent à faire parfois plier les chines à certains constructeurs de smartphones. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir au contenu de ce de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM et puis aussi nous retrouver sur la page Facebook. Bienvenue, c'est parti pour de quoi je me mêle. Et on reprend nos bonnes vieilles habitudes, voici le club de la presse IT avec cette semaine Nicolas Lelouch qui est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Nicolas journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette qui est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonsoir.
Journaliste à l'Express. Et on va maintenant plonger dans l'actu de cette semaine, une actu, vous allez le voir, très diversifiée. Et on commence par Huawei, Huawei qui se déleste de sa marque Honor. Nico.
Et oui, c'est assez triste comme fin pour Honor, comme début, un nouveau renouveau, oui. Très certainement. Mais c'est vrai qu'Honor, c'est la filiale jeune de Huawei qui a été lancée en 2013. Et c'est une marque qui était assez populaire en Europe, en Russie, dans quelques pays justement, avec des très bons smartphones, un meilleur rapport qualité-prix généralement que ceux de Huawei. Et malheureusement, pour Honor, ils sont aussi concernés par le bannissement américain qui concerne Huawei. Donc du coup, plus de services Google depuis maintenant un an. Et évidemment, ça impacte les ventes. Et Honor était complètement à l'arrêt. Malheureusement pour eux, il y a un changement de stratégie, ils sont revendus désormais.
Donc ils sont revendus à des Chinois, d'accord ?
Tout à fait.
Qui sont donc de nouveaux actionnaires, et ces nouveaux actionnaires pourront redonner en fait la résurrection à Honor, et Honor pourra retrouver tous ses services Google, en théorie,
En théorie, disons que pour Huawei, il était compliqué de vendre toute son activité smartphone, parce que ça aurait été un gros aveu d'échec, par exemple.
Et puis Huawei en Chine, par exemple, qui n'a pas besoin de Google, fonctionne bien.
Tout
finalement.
À fait, et on peut imaginer que dans ce deal, ils se séparent en partie d'une partie de leur recherche et développement, justement pour arriver à reconquérir justement le monde occidental. Ce qu'on sait, c'est que cette vente, elle est à peu près de 13 milliards d'euros. Le chiffre exact n'a pas été communiqué par Huawei. C'est un consortium d'entreprises chinoises et du gouvernement local de Shenzhen qui rachète Honor. Donc c'est assez particulier, mais ça reste bien chinois. Et tous les employés de Honor partent justement dans ce nouveau consortium, ce qui signifie que toute la chaîne R&D, la production, les employés en Europe, dans le monde entier, vont désormais travailler pour ce nouveau groupe et ce nouveau Honor. Et donc, on peut imaginer que dans un futur très proche, on ait de nouveau des smartphones Honor avec les services Google et avec tout ce qui manque à Huawei.
Voilà, et ça va être intéressant de voir comment ces nouveaux actionnaires imaginent le nouveau Honor. Hein. Est-ce que la stratégie va changer ?
C'est une très bonne question. Est-ce que ça sera la même chose ? Est-ce que c'est nouveau ? En tout cas, Huawei dit qu'ils vendent Honor pour assurer sa survie. Donc, ça dit un petit peu l'état dans lequel se trouve l'entreprise en ce moment.
Emmanuel, c'est vrai que Huawei n'avait pas le choix là. Hein.
Non, ils n'avaient pas le choix parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on regarde les ventes de terminaux, c'est autour de 150 millions d'unités par an pour Huawei. Et il y a 25 à 30% de ces terminaux-là qui sont des terminaux Honor. Donc ça représente quand même un volume assez important. Il faut voir qu'aujourd'hui, sans Honor, Huawei va devenir probablement quatrième mondial, fabricant mondial, donc derrière Samsung, derrière Apple, derrière Xiaomi, je ne sais pas comment, j'ai toujours du mal à... Enfin voilà, numéro 4.
Alors Nico, qui est notre spécialiste, va te dire comment il faut le prononcer.
Xiaomi. Mais c'est toujours un peu complexe.
T'imagines un chat et tu rajoutes Omi
c'est
derrière.
Ça, en vrai, c'est
après,
plus simple.
T'es sûr, tu ne vas pas te tromper.
Donc effectivement, et là où il y a au moins deux questions effectivement dont tu as parlé Nicolas, qui sont aujourd'hui encore en suspens. La première, c'est de savoir, est-ce que Honor va pouvoir faire du haut de gamme, monter en gamme, aller concurrencer Huawei, puisque maintenant ils ne sont plus dans le giron. Donc pourquoi pas avoir des Honor plus haut de gamme, et puis se diversifier aussi sur des appareils autour, des périphériques autour du smartphone. Donc ça, c'est la première question stratégique. Puis la seconde qui fait un peu poser des risques sur Honor, c'est que ce qu'a eu Huawei, c'est-à-dire de ne plus pouvoir utiliser Android, etc., a priori, Honor aujourd'hui n'est pas concerné
par ces restrictions
américaines, mais la nouvelle administration Biden pourrait élargir à Honor. Donc,
c'est ça pour ça être aussi... un coup d'épée dans l'eau, finalement.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a quand même une incertitude sur son avenir, même en dehors de chez Huawei, sachant qu'en plus, effectivement, si le deal est de 13 milliards, ça vaut peut-être pas 13 milliards en plus. Donc, c'est un risque très important pour ceux qui ont aujourd'hui acquéri cette société. Donc, il y a plus de 30, effectivement, 30 sociétés proches du gouvernement qui font partie du deal.
Est-ce que Huawei peut garder en sous-main l'œil sur Honor, finalement ?
A priori, non, parce que l'administration américaine va être vigilante à cela. Encore une fois, on est dans une période totalement d'incertitude avec le changement d'administration. Donc on va voir
si Biden... changement qui prend plus de temps que prévu,
visiblement. Et puis est-ce que Biden va s'aligner sur la politique de Trump ou pas ?
C'est ça.
En matière de lutte contre la Chine, il y a de fortes chances qu'il s'aligne. Donc on va voir...
Oui, parce qu'en plus, Trump a fait le sale boulot, donc là, il suffit de continuer. Tout simplement. On verra bien. On enchaîne avec un autre constructeur chinois qui, lui, se porte un peu mieux, on va dire, puisqu'il n'est pas sous le joug en fait des interdictions américaines. Il s'agit d'Oppo. Oppo qui a présenté cette semaine quelques innovations, dont une qui est assez bluffante.
Complètement, c'est vrai que c'était la grosse surprise. Déjà, le contexte de cet événement, c'est ce que Oppo appelle l'InnoDay, donc le jour de l'innovation. C'est une fois par an à Shenzhen en Chine, et c'est lors de cet événement que généralement Oppo présente des choses qui ne vont pas sortir dans l'année, mais plutôt sur 2 ou 3 ans. C'est vraiment histoire de montrer où elle se dirige. Et là, ils nous ont annoncé quelque chose d'impressionnant. C'est un téléphone à écran déroulant, déroulable, enroulant, comme vous voulez. Il y a plusieurs manières de prononcer ça. Mais l'idée...
vous prenez ce que vous voulez.
Disons
en fait.
Que le plus simple est d'imaginer l'écran de projection d'un vidéoprojecteur. Vous savez, il est accroché au plafond et vous tirez dessus pour le faire descendre. En fait. On le déroule. Et c'est exactement la même chose avec ce smartphone qui, lorsqu'il est en position normale, fait 6,7 pouces. Donc c'est l'équivalent d'un très grand téléphone, un grand Samsung, un grand iPhone par exemple. Mais il peut s'étirer sur la largeur pour devenir une petite tablette de 7,4 pouces et donc ainsi adopter un format similaire à ce qu'on a avec le Galaxy Fold de Samsung par exemple. Et ce qui est fort là-dedans, c'est que c'est pas l'utilisateur qui tire sur les deux côtés comme si c'était du papier par exemple, mais il y a un moteur à l'intérieur du téléphone qui fait que l'écran s'étend tout seul. Donc la démonstration, elle est folle. Quand on voit la vidéo de présentation, on se dit oui, c'est juste un montage, ils en sont certainement loin. Oui. Mais il se trouve que la presse chinoise qui était sur place, elle a publié des vidéos et le produit, il existe.
Parce qu'il y a deux types de vidéos. Il y a celle qu'on voit là, qui est la vidéo publicitaire, et puis il y a des vraies vidéos.
Il y a des vraies vidéos, évidemment.
On voit, c'est un gars qui tient le téléphone et on a exactement le même effet.
C'est ça. Et cette année, il n'y avait malheureusement pas de presse internationale à l'événement pour cause de pandémie, on s'en doute bien. D'ailleurs, assez amusant, là-bas, la conférence est sans masque. À Shenzhen, ils ont complètement éliminé le virus.
Tu y étais, toi, d'ailleurs, l'année dernière.
L'année dernière, j'y étais, mais cette année, c'était réservé. Du coup à la Chine, mais c'est vrai que ce produit est vraiment incroyable. Il vient concurrencer les smartphones pliants. Il montre une autre vision justement de ces téléphones qui peuvent changer de format. Selon moi, malheureusement, ça va pas sortir. J'y crois très peu, en tout cas à l'horizon de 1 ou 2 ans.
Parce que technologiquement, pour toi, c'est pas prêt ce type de choses.
C'est certainement prêt à très petite échelle, pouvoir en produire des millions et surtout le faire à un prix raisonnable, je pense que c'est un rêve et que ça ne me prendra 2-3 ans avant d'arriver à faire ça dans le grand public.
En revanche, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que avoir un petit téléphone qui n'est pas beaucoup plus épais, parce que visiblement il n'a pas l'air d'être beaucoup plus épais, qui se déplie finalement pour avoir une taille d'écran confortable, et qui se déroule et qui se réenroule en quelque sorte.
Bien sûr, l'écran pivote derrière, à l'arrière. Donc
c'est vraiment séduisant.
C'est complètement séduisant.
On n'a pas de prix, on n'a pas de date, donc...
Ouais, évidemment, mais le format est bon. Pour moi, il a un avantage sur les formats pliants, c'est qu'il n'a pas de pli. Ça, c'est bien, l'écran, il est toujours lisse. Mais il a un des avantages, c'est que l'écran est toujours visible en extérieur. Et cette techno-là, ce n'est pas du verre, c'est du plastique. Donc du coup, ça se raye, alors qu'un fold ou un flip, quand il est fermé, il est protégé. Donc il y a évidemment plein de compromis à faire. Est-ce que ça sera aussi fin le jour où ça sortira vraiment ? Est-ce qu'ils auront réussi à mettre un matériau plus résistant ? On verra. Je pense qu'on aura le temps d'en parler et qu'entre-temps, on aura pas mal de téléphones à plier et déplier.
Avec une technologie OLED, hein, bien sûr. Il n'y a que les écrans OLED qui peuvent permettre
tout
ça.
Tout à fait.
Emmanuel, Oppo, qui essaie de sortir en fait de ce flux, de cette jungle en fait des constructeurs de smartphones qui finalement innovent assez peu. Là, il y a une vraie innovation un peu waouh, quoi.
Oui, effectivement. Alors après, on sait que, Nicolas l'a même écrit, mais que d'autres constructeurs comme TCL préparent aussi des choses. Donc on s'attend effectivement à des nouveaux form factors en fait, de téléphones avec des technologies enroulables, déroulables, enfin effectivement comme vous le souhaitez.
C'est compliqué encore de choisir un mot.
Exactement. Et comme le dit aussi Nicolas, c'est que pour l'instant c'est un marché niche. Il faut savoir que même en 2023, on estime qu'il se vendra moins de 3% de ce type de terminaux. 100 millions à horizon 2025, donc quand il s'en écoule plus d'un milliard et demi chaque année, c'est quasiment rien. Il y a encore quand même pas mal de problèmes. Hein, déjà des prix qui sont assez élevés, donc c'est pas forcément abordable. Et puis on regarde celui aujourd'hui qui domine le marché, en l'occurrence Samsung. Il en est déjà à sa troisième itération de téléphone pliable, dépliable, enfin voilà, et avec plein de soucis techniques qu'on a pu voir apparaître. Donc sur Oppo, est-ce que par exemple à un moment donné le moteur va pas commencer à ripper à force d'ouvrir et de fermer le téléphone? Il va y avoir pas mal de questions sur lesquelles il va falloir avoir des réponses, parce que c'est vrai qu'à l'usage, ces téléphones-là en première main sont intéressants, mais quand on commence à les utiliser de manière constante comme on le fait sur un téléphone, le déplier, le replier, le déplier, le replier, souvent il y a des problèmes mécaniques techniques qu'on voit surgir assez vite, et avec des téléphones qui coûtent aussi cher, on n'a pas vraiment envie de les remplacer au bout de 18 mois ou 2 ans.
Ouais, là on voit, enfin si vous êtes avec nous en vidéo, on voit une vraie démo hein, de ce téléphone, et c'est hallucinant.
Ah, c'est impressionnant.
C'est hallucinant, c'est incroyable. Là je m'adresse à tous ceux qui sont à la radio, venez sur 01TV et regardez la vidéo, c'est vraiment impressionnant. Alors le téléphone c'est bien, la 5G c'est pas mal non plus, et ça y est, elle arrive la 5G. Bon, alors elle arrive pas partout, et je sais pas tout le monde, mais on commence en tout cas, et c'est un grand jour aujourd'hui pour l'opérateur SFR qui en fait inaugure, qui est le premier en fait à proposer une offre 5G commerciale. Alors c'est juste dans une ville, et encore pas dans toute la ville.
Ils ont choisi la plus belle des villes, ils ont choisi Nice.
J'en étais sûr.
Ils ont choisi Nice, bah tu me tends une perche.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est Nice qui est la première ville 5G.
Tu serais pas du choix, par hasard.
Peut-être, c'est une possibilité. Mais ils ont choisi Nice, du coup, qui est la première ville 5G de France. Ce que revendique SFR, c'est assez impressionnant d'ailleurs, je trouve, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'ils disent qu'il y a 50% de la population qui est couverte dès aujourd'hui. Ça me paraît fou, parce qu'il n'y a pas énormément d'antennes déployées actuellement, et on sait que la portée des antennes 5G n'est pas toujours extrêmement efficace.
Donc c'est qu'il y en a quand même quelques-unes. Quoi.
Ouais. En tout cas, oui, ça, tout ça sera à vérifier. Il faut voir si c'est réellement 50% et si c'est pas uniquement concentré sur le centre-ville. Donc du coup, évidemment, ça triche un petit peu. Tout ça, ça sera à vérifier. Et donc, SFR se met en premier sur la 5G. Il double tout le monde, parce qu'on s'attendait à avoir Orange en milieu de semaine, mais en fait, c'était une erreur de communication d'Orange qui avait donné une mauvaise date, mais c'était pas prévu à cette date. Bouygues Télécom qui a annoncé le 1er décembre. Donc SFR dévoile du jour au lendemain, la 5G arrive à Nice, avec nous, et donc du coup il devient le premier opérateur en France à lancer la 5G.
Voilà, et rappelons que SFR et RMC 01TV ont le même actionnaire, il s'agit d'Altice. Emmanuel, donc, SFR qui tire le premier sur la 5G, après c'est un coup de com', hein, bien évidemment.
Oui, évidemment.
Ça fait toujours plaisir de doubler les autres, et notamment Orange.
Voilà, exactement, l'opérateur historique, hein, parce que ça reste quand même l'opérateur historique. Effectivement, comme le dit Nicolas, on s'attendait à ce qu'Orange soit les premiers, et là c'est pas le cas.
Le secret était bien gardé. Hein.
Plutôt bien.
Joué, oui. C'était la surprise en découvrant ça.
Et puis après, il y a les forfaits, hein, pour le coup. Et là, les forfaits SFR sont totalement alignés, pour le coup, avec les forfaits Orange, avec des prix qui sont quand même assez élevés. Hein. Ouais. C'est hors promotion au bout d'un an. On passe tout de suite à 40 euros, enfin 39,99, 40 euros. Et puis, ça peut monter jusqu'à 95 euros pour l'illimité. Donc, on voit que pour l'instant, les opérateurs, ils ont certes payé 2,7 milliards d'euros pour avoir les fréquences, mais ils comptent bien essayer de rehausser les prix sur les forfaits. Alors, à ça, une dernière interrogation, c'est Free, parce qu'eux, on ne connaît pas la date de lancement et on ne connaît pas du tout leur grille tarifaire. Est-ce qu'ils vont casser les pattes, entre guillemets, aux concurrents en offrant la 5G au même prix que la 4G? Ce qui est fort probable. Et du coup, il pourrait y avoir des révisions assez vite des forfaits de SFR, d'Orange et de Bouygues Télécom.
Oui, c'est ça. Et puis, on en a déjà parlé, hein, évidemment, dans cette émission. On peut imaginer que Free est en train de construire son réseau 5G sur des bandes de fréquences qui ne seraient pas celles de 3,5 GHz, qui seraient sur des fréquences utilisées par la 4G et qui permettraient d'avoir une couverture beaucoup plus importante très vite.
Hein. Exactement.
Et ça serait un coup de com'.
Ce serait un coup de com', parce que du coup, ils n'annonceraient pas une ville, en l'occurrence Nice, là, mais plusieurs, avec des couvertures très très bonnes.
Alors, SFR a annoncé d'autres villes qui vont ouvrir assez vite. Hein.
Oui, ils citent Montpellier, Bordeaux, Marseille, Nantes et toute la région Île-de-France, avec une promesse, encore une fois, assez folle, de couvrir très rapidement 90% de la population parisienne. On se demande encore une fois comment, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'antennes.
Mais je pense qu'en fait, ils se servent des sites 4G qui sont quand même assez généreux hein, dans ces villes-là. Et je pense que ça doit être des mises à jour en fait, de matériel qui permettent très vite d'avoir une couverture.
Sans doute. Disons que la vraie correcte. 5G, qui est la 5G millimétrique surpuissante, oui. Ça ne sera pas de suite. Et pour l'instant, ça sera surtout le but de désengorger les réseaux 4G avec justement. Il y aura écrit 5G en haut de votre téléphone, ça ira peut-être un petit peu plus vite, mais ça ne sera pas une révolution.
Bon, Nicolas va descendre plus vite que prévu à Nice. Et non juste pas pour le soleil, hein, simplement pour l'investigation journalistique et tester le réseau 5G.
Non, il faut enquêter, c'est très important dans le journalisme.
Enfoiré. Allez, on enchaîne avec un test très attendu, celui du Mac M1. Vous savez que la semaine dernière, Apple a fait une nouvelle conférence, une nouvelle keynote où ils ont annoncé donc ces nouveaux Mac avec une nouvelle infrastructure à l'intérieur de chipset qui s'appelle M1 et ZeroNet a testé ce Mac.
On l'a testé, beaucoup de médias dans le monde entier l'ont testé. C'était mardi en fait que les premières unités de MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini avec un processeur M1 ont été livrées. Et ce qui est surprenant, c'est que généralement, quand il y a un changement aussi majeur de technologie, en l'occurrence un changement d'architecture, on passe d'Intel à ARM avec des processeurs maison développés par Apple. La première génération, elle est moyenne, la deuxième, elle est mieux, et la troisième, elle commence enfin à être bonne. Donc là, on s'attendait à... Attention, n'y allez pas trop vite, il y aura très certainement des problèmes d'optimisation, tout ne sera pas parfait. Et à la surprise générale, c'est que cette première génération, elle est quasi parfaite et que la presse du monde entier est d'accord pour dire qu'ils n'ont jamais vu un produit qui met autant tout le monde d'accord. Et il faut reconnaître, nous, c'est ce qu'on a remarqué, quand vous avez une application nativement adaptée au Mac, elle bat des records de performance. Le Mac à 1000 euros bat des Macs à 4000 euros. Et quand vous avez...
Sous infrastructure Intel.
Là, je parle d'une infrastructure... Oui, un Mac à 1000 euros sous infrastructure Intel. C'est ça.
Qui est donc, on va dire, le très haut de gamme.
Qui est le très haut de gamme chez Apple, parce qu'il faut rappeler que cette puce M1, c'est l'entrée de gamme d'Apple. C'est les Macs les moins chers. Et lorsqu'on émule une application Intel sur une architecture Apple Silicon, donc en l'occurrence, c'est un petit peu de la triche, hein, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui traduit le code à la volée.
Ça s'appelle Rosetta.
Rosetta 2, c'est ça, pour adapter justement l'application. On pouvait s'attendre à des performances en baisse ou à des ralentissements. Et pas du tout. Le Mac, il est aussi plus puissant que son équivalent sous Intel.
Même sous émulation.
Vous ajoutez à ça la possibilité de faire tourner des applications iPhone et iPad. Le fait d'avoir une batterie quasiment doublée, c'est-à-dire que on s'est amusé à comparer avec mon collègue Pierre Fontaine qui lui a un Mac M1 et moi j'ai encore un Mac Intel, mais c'est à peu près les mêmes en ce moment.
Mais quel loser, Nico.
Ouais, moi je me sens un petit peu à l'ancienne, mais
franchement.
Mais
du coup, t'as ensuite appelé PlayStation 5.
Heureusement que j'ai la PS5. On en parlera après. Mais du coup, moi, sur ma première heure de travail ce matin sur mon Mac Intel, j'ai perdu 25% de batterie et Pierre il en a perdu 2.
Waouh.
Et c'est ça qui est colossal parce qu'on fait les mêmes choses en fait. Et ces Mac M1 sont peut-être en train de révolutionner l'industrie de l'ordinateur portable.
Et sur le MacBook Air, il y a même pas de ventilateur.
Ventilateur. Apple dit on n'en a pas besoin et ils ont raison parce que le MacBook Air est plus puissant que des Macs avec ventilateur à 4000 euros. Il chauffe quasiment pas. Donc c'est assez ça qui est fou. Et autre chose, Apple n'invente pas, c'est pas les premiers à faire des ordinateurs ARM. Windows, Microsoft a essayé notamment avec la Surface, mais il y a très peu de logiciels compatibles et surtout ça bug énormément chez Windows. Et ce qui est amusant, c'est que le nombre de logiciels compatibles avec les Mac M1 est déjà plus grand que celui des logiciels compatibles avec Windows ARM. En l'occurrence, on a Photoshop et Microsoft Office en bêta, Google Chrome qui est dispo en version finale. Pixelmator, il y a plein de développeurs qui s'y mettent et même Microsoft qui n'a pas adapté toutes ses applications en ARM le fait sur Mac, donc c'est vraiment la preuve que Apple est en train de faire quelque chose de très intéressant.
Ouais, et Microsoft est obligé de suivre, hein, il faut qu'il soit absolument présent.
Ça va très certainement lancer le marché maintenant. Bien quand sûr. On voit l'avance qu'a Apple au niveau des puces, ces puces-là gravées en 5 nanomètres surpuissantes, ça va être compliqué dans les 2-3 premières années pour les PC de rivaliser.
C'est ça qui est dingue, Emmanuel, c'est que en fait c'est la puce qu'il y a dans l'iPhone. Alors, elle est un petit peu modifiée, mais pas beaucoup. C'est la même infrastructure et on arrive aujourd'hui à avoir une puissance de calcul là-dedans qui,
Oui, effectivement.
Met à plat les processeurs Intel, c'est dingue.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un petit coup de pied de l'âne, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais de la part d'IBM. Donc, il y a un chercheur d'IBM qui a noté que ce processeur M1 coûtait à Apple entre 40 et 50 dollars pièce. Alors que Intel, on était à 200 dollars.
C'est dingue.
Alors, venant d'IBM, ça veut dire qu'ils ont fait leur calcul. C'est-à-dire qu'en année 1, Apple va économiser 2,5 milliards de dollars en passant sous une architecture ARM avec trois modèles hein, aujourd'hui qui sont équipés d'ARM. Donc si ça se généralise à la totalité, vous imaginez
un coup de génie,
les économies d'Apple qui vont être monstrueuses.
Et alors, ça veut dire que les marges seront beaucoup plus importantes sur les Macs.
Sur les Macs. Et alors pourquoi le coup de pied de l'âne ? Pour les plus anciens d'entre nous, donc je ne parle pas à Nicolas, désolé. Souvenez-vous, en 2005, qu'est-ce qui s'était passé ? Steve Jobs annonce, on abandonne IBM et le PowerPC, pour passer sous architecture Intel.
On se souvient de cette keynote, hein, où le patron d'Intel de l'époque était rentré en habit de cosmonaute.
Déguisé en fondeur.
Et 15 ans plus tard, bah, Apple refait le coup, ils enlèvent Intel pour mettre leur propre architecture basée sur de l'ARM, hein, donc effectivement. Et derrière, IBM dit, bah, regardez, ils vont faire énormément d'économies et ça va leur retomber dans les poches. Donc bon, c'était le petit coup de pied de l'âne d'IBM en disant que c'est pas simplement de la technologie, c'est aussi beaucoup d'économies pour Apple.
Évidemment.
Ouais, mais c'est une économie intelligente qui bénéficie en fait aux consommateurs, c'est ça qui est formidable. Voilà, il n'y a pas de concession finalement.
Ouais.
C'est bien joué. On reste du côté d'Apple. Alors, il y a l'Apple qui réussit avec le M1, hein, et les iPhones, etc. Et puis, il y a l'Apple aussi qui parfois se prend les pieds dans le tapis, Nicolas, avec notamment ce constat. Apple est obligé de baisser sa commission sur l'Apple Store, en tout cas dans certaines conditions.
Ouais, ils ont mis du temps à le faire. Rappelons un petit peu ce qui se passe autour de l'App Store depuis quelques années. Déjà, depuis le début de l'App Store en 2008, Apple prélève 30% de commission sur toutes les ventes qui sont effectuées sur le magasin. Au début, ça ne gênait pas, dans le sens où Apple permettait à beaucoup d'applications de
vivre.
Voilà. Mais après, parce qu'on s'est rendu compte quand même que cette commission, elle était immense et un peu injustifiée, surtout voilà, que sur les iPhone et iPad, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas télécharger une application ailleurs. Donc en gros, si vous voulez être présent, vous payez. Ça faisait un peu racket. Donc il y a eu énormément de grosses entreprises qui se sont rebellées contre Apple. Les deux meneurs, c'est Epic Games, Fortnite et Spotify. Mmh. Qui du coup ont retiré leur application. Enfin, Fortnite a fait du forcing en essayant de créer un moyen alternatif, donc s'est fait virer par Apple. Et Spotify a retiré la possibilité de payer et d'autres développeurs les ont suivis. Il y a beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux, de développeurs qui disent que c'est intolérable, qui perdent beaucoup d'argent. Et Apple est un petit peu sous le feu des critiques. Oui. Il y a des enquêtes contre lui, des enquêtes aux États-Unis, des enquêtes en Europe.
Surtout qu'Apple gagne énormément d'argent. C'est une boîte qui en fait
évidemment
très bien se passer de ce pourcentage-là.
C'est ça. En fait. C'est que là, en l'occurrence, c'est vraiment entretenir leur propre réseau. Mais il pourrait s'en passer. Il y a une enquête en ce moment en Europe, aux États-Unis, sur abus de position dominante sur Apple, en disant justement qu'ils abusent avec les conditions de l'App Store. Apple évidemment craint que des sanctions soient très importantes et puissent par exemple le contraindre à ouvrir à des alternatives à l'App Store, ce qu'il veut absolument éviter. Donc du coup, après avoir longtemps dit que non, les règles de l'App Store étaient les meilleures, ils ont enfin décidé de faire un petit peu de changement. En l'occurrence, ça s'appelle App Store Small Business Program. J'espère que vous avez apprécié mon anglais. Et l'idée étant de dire que les entreprises... Les entreprises qui ont un chiffre d'affaires sur l'App Store inférieur à $1 million par an ne seront plus taxées qu'à 15% au lieu des 30%. Ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que l'entreprise doit forcément postuler et elle est taxée sur ses revenus de l'année d'avant. Donc si elle a gagné 1 million et 10 000 dollars en 2020, en 2021, elle ne sera pas éligible. Alors que si elle fait un petit peu moins en 2020, elle le sera en 2021. Donc du coup, on se demande comment les développeurs vont faire pour ceux qui sont pile à la limite, s'ils vont arrêter les ventes avant la fin de l'année pour préserver les 15%.
Parce que 15%, ça fait beaucoup quand même.
Ça fait une belle risque.
Bah, sur $1 million, ça fait 150 000 dollars.
Et rappelons que la majorité des développeurs de l'App Store, vu le nombre d'applications présentes sur la plateforme, gagnent moins d'un million. Donc, ce qui est marrant dans cette solution, c'est que d'un côté, ça va réjouir de nombreux développeurs, et de l'autre, ça fait quand même un beau pied de nez aux gros développeurs.
Voilà, ça réglera pas le problème Epic,
non,
par exemple. Et encore moins celui de Spotify.
Oui, Spotify dit qu'Apple a une politique arbitraire et capricieuse et n'est pas du tout content de cette décision, parce que du coup, les développeurs sont maintenant du côté d'Apple.
Emmanuel, c'est un premier recul de la part d'Apple. Est-ce qu'il pourrait reculer encore, finalement ?
Alors, visiblement, c'est pas du tout un recul. C'est-à-dire qu'une étude de Sensor Tower dit qu'aujourd'hui, les éditeurs qui font plus de $1 million sur la plateforme donc Apple, ça représente 0,2%. Donc quasiment personne, en fait. Hein. Mais ces 0,2% généraient 92% du chiffre d'affaires de l'App.
Et voilà.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, Apple vient de faire une fleur à 8% des développeurs. Pas des développeurs, mais 8% des applications.
Oui,
Et 92% d'entre elles, celles qui lui rapportent le plus d'argent, en fait, ne sont pas concernées par cette mesure. Ce qui veut dire qu'en fait, Apple a fait un effort qui lui coûte pas grand-chose, voire quasiment rien. Donc effectivement, c'est du lobby pour montrer à l'Europe, parce qu'il y a aussi une procédure en Europe et une procédure aux États-Unis.
Ça prouve qu'ils font un effort.
Voilà, ils montrent que...
Mais bon...
Mais un effort qui leur coûte rien.
Oui. Mais c'est un effort qui peut être considéré comme presque de l'insolence, finalement.
Ça peut être vu comme ça, ça peut être vu comme au moins ils font un pas dans la bonne direction. Je pense que c'est pas anodin que ça arrive là, puisque les enquêtes sont en cours.
Bien sûr.
Et que,
on voit que les avocats ont dû passer par là en leur disant écoutez les gars, il faut que vous calmez parce qu'autrement ça va vous coûter cher.
Il faut vous calmer, mais en même temps que ça vous coûte pas trop cher.
Ouais, donc voilà, on va trouver un juste milieu. Exactement. Et on va voir ce qui se passe.
Exactement.
La PlayStation 5, Nicolas, tu l'as reçue.
Oui. Voilà. Très bien.
Je l'ai vu sur Instagram, hein. T'avais l'air très, très heureux.
Ah, j'étais content, bien sûr. Bah, y a pas les nouvelles consoles, c'est quasiment tous les 6-7 ans.
C'est enfin, c'est... Tu l'as reçu en temps et en heure.
Ouais, avec voilà. Une précommande effectuée en septembre, en précisons-le. Parce
exactement.
Que, malheureusement, tout le monde n'a pas eu de précommande.
Un lancement de la PlayStation 5 qui a été chaotique, à la fois pour Sony et puis aussi par tous les distributeurs qui se sont retrouvés sur le carreau. Hein.
C'est ça.
C'est incroyable.
C'est un peu compliqué pour Sony. Déjà, rappelons qu'en septembre, il y a eu une ouverture d'une première phase de précommande qui. Était très désorganisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'horaire communiqué par Sony, c'est chaque commerçant faisait ce qu'il voulait et les stocks s'écoulaient en 5 minutes. Donc du coup, la frustration des joueurs, vous vous en doutez, elle était assez immense. Il fallait vraiment surveiller les réseaux sociaux et être au taquet pour réussir à tomber sur une PS5.
C'est un peu la chasse au trésor, quoi.
C'était exactement ça. À la suite de ça, on avait eu des excuses. Sony, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission, où ils avaient dit que voilà, ça avait été mal géré et qu'ils promettent qu'il y aura du stock au lancement sur ces sites-là pour justement ceux qui n'ont pas eu de console. On est en plein confinement, les magasins sont fermés, donc du coup, tout se passe sur Internet. Donc évidemment, ça complexifie tout encore plus. Donc hier, sortie de la PS5, ouverture justement des commandes sur la Fnac, sur Amazon, sur Darty, sur Cdiscount, quand même, sur tous les sites,
Micromania,
sur tous les sites d'e-commerce, pour ceux justement qui voulaient commander sur un tout petit stock et les récupérer du coup dans les tout prochains jours.
Oui, parce qu'en fait, chaque enseigne, comme tu disais, avait un tout petit stock, en fait.
C'est ça, chaque enseigne avait un tout petit... Par exemple, dans le cas de Micromania, je crois qu'il n'y avait même pas de stock, hein, c'est-à-dire que ils annoncent des dates hyper lointaines en 2021 et les autres, c'était vraiment très limité. Ce qui s'est passé du coup, hein, bah, on s'en doute, hein, c'est que tous ces sites ont été pris d'assaut. Il y avait des files d'attente. Je ne savais pas qu'il y avait un système de files d'attente sur le site de la Fnac, par exemple, mais maintenant on le découvre. Il y a des gens qui ont été bloqués aussi. Leur adresse IP ont été bloquées parce qu'ils rafraîchissaient trop la page. On le voit à l'image. Ça, je trouve ça assez amusant de se faire bloquer du site de la Fnac. En l'occurrence, Fnac, Boulanger, Auchan, Leclerc, bah, tous, bah, le site était KO. Même si vous vouliez faire vos courses sur le site de Leclerc, bah vous pouvez pas faire vos courses, il y avait plus, tout était bloqué. Tout ça, ça prouve que la PS5, c'est plutôt un gros succès pour l'instant. Ça frustre encore plus les joueurs, c'est un lancement un peu compliqué pour Sony, mais d'un autre côté, ça veut dire que ça marche bien.
Et puis ça leur fait de la pub.
Exactement, oui. Oui,
c'est compliqué d'avoir Xbox, des nouvelles Xbox aussi
hein,
l'Xbox Series, c'est très compliqué. On en parle moins, mais aujourd'hui, enfin, avoir une console next-gen pour Noël,
ça
bonjour.
Va être compliqué.
Hein.
Ouais,
il faut s'accrocher. Hein. Emmanuel, toi, tu n'as pas réussi à en avoir une. Donc, on lance un appel vibrant à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez une PlayStation 5 de trop... Voilà, vous pouvez en faire don à Emmanuel Paquette ici présent.
Non,
ça lui fera plaisir. Tu l'achèteras ?
J'achèterai, ouais, évidemment. D'accord. Non, mais justement, j'ai essayé justement de l'acheter, mais par d'autres moyens.
Parce que c'est toi qui as fait tomber le site de la Fnac alors.
Il a
bravo.
Été bloqué.
Et du coup, j'ai regardé sur tous les sites d'enchères, eBay, etc.
Ouais, alors
et
là,
vous trouvez des prix, mais alors là, pour le coup.
J'en ai vu une à 2800 euros hier.
Ouais, voilà, exactement. J'ai trouvé le même prix aussi. Ouais. Donc, effectivement, il y a un marché secondaire qui est en train de se développer en raison de la pénurie de PlayStation. Xbox, j'ai moins regardé, mais je pense que c'est pareil. Hein. Et les prix sont en train de flamber. Et je pense que Sony a une forme de responsabilité par rapport à ça, parce qu'ils pourraient aussi contrôler ce genre de choses. Et on voit qu'il y a des gens qui se font du beurre un peu sur cette pénurie. Donc effectivement, c'est, comme tu le disais, c'est un lancement très chaotique.
Eh bien voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez votre PlayStation 5, peut-être êtes-vous en train de nous écouter en jouant. J'espère que tout se passe bien. On sait ce que va faire Nicolas Lelouch ce week-end. Voilà.
Hein. Le poser une semaine de congé.
Je crois que ça va être un délicieux confinement hein, pour Nico.
Ah bah c'est sûr que c'est pas mal.
Merci à tous les deux. Merci Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous restez avec nous la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant et on découvrira une boîte que tu dois connaître, hein, c'est DxO. Qui teste les modules photo de tous les smartphones et les constructeurs attendent les résultats de DxO parce que c'est un petit peu eux qui donnent le la en matière de test. Eh bien, on recevra le patron de DxO parce que DxO est une boîte française qui est basée dans la région parisienne. A tout de suite pour De quoi je me mail.
De quoi je me mail sur RMC et 01TV. RMC 01TV, François Sorel, De quoi je me mail.
Le retour de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, tous les week-ends à la radio sur RMC le dimanche matin et en vidéo sur 01TV, la chaîne sur les box, sur la chaîne YouTube de 01TV et puis bien sûr sur 01nettv.com. On va maintenant découvrir une pépite qui fait frémir les géants en fait du smartphone mais aussi des enceintes audio, des écrans. Il faut savoir qu'en France on a la chance d'avoir des ingénieurs de très très haut niveau qui testent des appareils photo, qui testent des écrans, qui testent des enceintes et qui ont en fait une résonance mondiale. Il s'agit de DxO Mark et je suis ravi de recevoir le CIO de cette boîte qu'on va découvrir maintenant. Frédéric Guichard, bonjour.
Bonjour François.
Merci d'être avec nous en ce week-end. Je rappelle que vous êtes le CEO donc et le cofondateur de DxO Mark. Alors, certains de nos auditeurs ou de nos spectateurs ont déjà entendu parler de vous parce que sur 01, on en parle beaucoup de DxO. Hein. Vous testez évidemment beaucoup de smartphones, quasiment tous les smartphones. Mais quel est votre métier et comment vous avez créé en fait cette boîte puisque vous êtes l'un des cofondateurs ?
Alors, bonjour. Donc, DxO Mark, en fait, on est des experts aujourd'hui de l'image et de la qualité d'image et de la qualité audio. DxO Mark est une PME française, donc 220 personnes, basée juste à côté d'ici, et dont le business, comme on l'a dit, est à l'international, puisque nos clients sont les GAFA, les fabricants de téléphones, les fabricants d'appareils photo, etc.
Mais comment vous avez réussi à percer ? Alors, et surtout, comment vous vous êtes dit, tiens, un jour, bah tiens, on va tester les modules caméra des smartphones. C'est comme ça que ça a commencé.
Ça a commencé comme ça. Ça a commencé il y a quelques années. Hein, c'est une vieille histoire. Donc DxO Mark faisait partie d'une autre société
et DxO Labs
absolument qui existe toujours et qui vend des algorithmes de traitement d'image pour la correction des défauts des appareils photo typiquement.
Et là, c'était quoi ? C'était des logiciels.
Donc c'était à la fois des logiciels, mais à la fois des
appareils de mesure.
Des logiciels, mais en fait qui se trouvaient câblés dans les chipsets des appareils photo.
Donc
du traitement des algorithmes en fait qui vont se retrouver dans les chipsets ensuite des appareils photo.
Donc vous étiez avec DxO Labs. Excusez-moi, je vous coupe, mais pour qu'on comprenne bien, vous étiez là pour améliorer la qualité des photos, des modules photo de certains appareils.
De certains fabricants, voilà, exactement, des appareils photo.
Mais donc, quoi, en fait, par exemple, appareils photo, pas appareil smartphone. Photo. Hein.
Alors au début, les smartphones, non, c'est arrivé. Parce qu'on a démarré en 2003,
et
un moment où l'appareil photo devenait numérique. Et le numérique a profondément modifié l'appareil photo. Enfin, donc dès que le numérique touche un appareil, en fait, il modifie.
Et là, c'est quoi ? C'est les Canon, les Nikon, ces gens-là qui sont venus vous voir
Alors au début, c'était pas facile, hein, parce que petite, encore plus petite PME française s'imposer auprès des Japonais, c'est quand même pas facile. Mais on a fini par s'imposer. Et l'idée, quand même, à la base, c'était de dire le numérique peut corriger, grâce au numérique, on peut corriger les défauts de l'optique et du hardware, enfin du capteur. Et alors, évidemment, pour bien corriger les défauts, il faut savoir les mesurer. Alors, et ça nous a amené à chercher des outils de mesure. Et en 2003, il n'y en avait pas. Alors, il y en avait pour les appareils photo argentiques, classiques, mais dans le numérique, il n'y avait pas.
Et en 2003, on était dans la bascule, en fait.
Exactement, c'était 2000-2003, c'est la bascule vers le numérique. Et donc, on s'est mis à développer nos propres outils de mesure des défauts des optiques, des capteurs, pour alimenter, en fait, les algorithmes de mesure qu'on vendait aux fabricants. Et donc, ça a pris
donc vous avez deux activités, finalement.
Effectivement. Alors, sauf que cette activité, c'était une sorte de centre de coût et servait les autres business units de notre société. Alors, assez rapidement, on s'est rendu compte que si nous, on avait besoin de ces outils de mesure, peut-être que les industriels, au sens large, en auraient besoin. Donc, on s'est mis à les commercialiser. Donc, c'est le début de la commercialisation des laboratoires de mesure pour les appareils photo, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, en fait, on mesurait tous les appareils photo, parce qu'il fallait corriger les défauts, et toutes les optiques. Et j'avais des copains photographes qui me posaient la question, bah, tiens, je vais acheter telle optique. Et donc, j'allais dans la base de données chercher. Je me suis dit, mais notre base, elle peut intéresser le grand public, enfin,
surtout,
en tout cas les geeks de la photo.
Et surtout, ça a une valeur. En fait, vous ne valorisiez pas à sa juste mesure ce type d'information.
Alors, on a mis du temps à le valoriser, mais on a décidé en 2008 de créer un site web pour mettre en ligne ces mesures. Alors au début, notre site web, c'était un peu les ingénieurs qui parlaient aux geeks, donc avec des courbes, des choses comme ça, c'était pas forcément très accessible,
très digeste,
on va dire. Mais disons, ça me permettait de facilement dire, bah, tu vas voir tel défaut sur telle optique, etc. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt du grand public, mais aussi de la presse, en fait, qui pouvait s'appuyer sur nos mesures pour écrire leurs articles, Parce qu'il n'y a pas forcément le temps d'aller dans le détail de l'évaluation. Et puis,
des tests aussi poussés.
Qualité d'image, c'est qu'une partie de l'appareil photo. Hein, donc nous, on se focalise vraiment sur la qualité de l'image. Donc ça permettait de donner le temps à la presse d'appréhender les autres aspects de l'appareil photo, l'utilisabilité, etc. Et donc nos mesures ont été relativement pas mal adoptées par la presse et par les internautes.
Oui, qui regardaient et ça, qui discutaient pour choisir leur futur appareil.
Exactement. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ces mesures...
intéressaient bien d'autres personnes.
Intéressaient aussi les constructeurs, en fait.
Mais là, je vous coupe, excusez-moi deux secondes. J'ai du mal à comprendre comment un constructeur qui fabrique, surtout avec la compétition qu'il y a aujourd'hui, n'a pas des outils de mesure aussi fiables que les vôtres. C'est bizarre quand même, non ?
Alors, ils ont nos outils de mesure.
Tant mieux pour vous, mais c'est quand même étrange qu'ils n'aient pas des outils de mesure.
Ils ont nos outils de mesure parce qu'ils sont tous équipés. C'est-à-dire, on a vendu nos labos à peu près à tous les fabricants. Donc, ils ont des labos, ils ont les ingénieurs, enfin, en tout cas pour certains, ils ont une armée d'ingénieurs, mais beaucoup plus que tout ce que nous, on pourrait aligner pour faire des mesures de qualité. Mais il faut imaginer qu'à la finalisation d'un produit, dans son cycle de développement, les équipes sont sous pression. Elles sont sous une pression extrême. Ils n'ont pas le temps et il faut faire vite.
Et ils ont besoin d'avoir une voie neutre, peut-être.
Exactement. Donc, c'est une évaluation qui est faite posée, neutre, sans biais. Alors que les équipes internes, le directeur technique peut dire j'ai peut-être un biais parce que peut-être qu'ils vont me dire que ça va pour juste pas venir en 24-24, 7-7.
Ils achètent, en fait, ils achètent votre neutralité.
Exactement.
Ces gens-là, parce que, alors, on va parler peut-être aussi de votre business et que vous vendez évidemment ces services.
Absolument. Alors, notre business, c'est à la fois de vendre les labos de mesure, les outils de mesure. Donc,
si moi je veux demain un labo, je viens chez vous.
Oui, il mais absolument. Alors peut-être pas vous, parce que la presse, on peut peut-être donner accès à nos labos, mais si vous êtes constructeur, il faut acheter notre matériel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'innovations dans les caméras, et donc les outils de mesure doivent suivre ces innovations. Donc ça amène un renouvellement, en fait. Permanent, une course, disons, à l'innovation aussi, dans les outils de mesure, pour être capable de suivre les innovations qui se passent dans les caméras.
Mais alors, comment vous avez gagné aujourd'hui ? Oui, pardon.
Alors,
allez-y.
Ça, c'est un de nos business. Notre deuxième business, c'est le fait d'opérer nous-mêmes nos laboratoires pour le compte des constructeurs. Donc, on va faire des rapports de mesure, on va faire des benchmarks.
Donc, par exemple, il y a Apple qui arrive, qui dit coucou, je sors un nouveau téléphone.
Voilà.
Vous vous en occupez. Allez, vous allez me tester l'appareil photo, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Exactement. Donc, on mesure et on leur donne un rapport de mesure, éventuellement en comparaison avec d'autres téléphones
de
commerce.
Et là, ils vous donnent de l'argent pour ça.
Ah, oui, ils nous payent pour ça, bien sûr.
D'accord. Mais. Alors, je vais être un petit peu un rebrousse-poil. En vous payant, est-ce qu'ils n'achètent pas aussi vos résultats ?
Alors, ils achètent le résultat de la mesure. Si vous voulez, c'est un peu. Mais c'est pas nous qui faisons leur téléphone, leur caméra. Et c'est pas nous qui directement, en tout cas, influons sur la qualité de l'image. S'il y a des problèmes dans leur caméra.
Si par exemple Apple, on va en parler dans un instant, puisque vous avez sorti les résultats des benchs des nouveaux iPhone, 12 Pro et 12 Pro Max.
Absolument. Donc prenons
Juste, je termine. Admettons que ces résultats soient dégueulasses. On ne sait pas. C'est improbable, mais c'est pas bon.
Ils sont pas contents.
Ils sont pas contents. Mais
ils nous le disent.
Comme ils vous donnent de l'argent, est-ce que vous allez pas essayer d'arrondir les angles en disant attendez.
Alors on peut pas. On mesure. Donc c'est pas.
Il y a pas d'interprétation.
Il y a pas d'interprétation. Donc c'est vraiment de la mesure et surtout c'est de la mesure qu'ils peuvent eux reproduire avec notre laboratoire, leur laboratoire pardon, et que leurs concurrents peuvent reproduire. Je peux vous assurer. Donc on a sorti les rapports du 12 Pro et 12 Pro Max en caméra. La plupart des concurrents vont acheter le rapport. Et s'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel point,
ils vont
le mesurer, ils ont des outils, ils vont mesurer et comparer. Et alors, il peut y avoir des erreurs, donc dans ce cas, ils vont nous le dire, on les corrigera. Mais en général, il ne peut pas y avoir de biais parce qu'ils peuvent tous vérifier ce qu'on fait. Et par ailleurs, s'il y avait un biais, on ne travaillerait plus avec tout le monde.
Oui, donc il faut vraiment garder votre légitimité, votre neutralité.
La neutralité,
qui est cartésienne,
en fait. Elle est liée à une approche scientifique
D'accord.
que l'on a dans l'évaluation des caméras. Alors, c'est une approche scientifique, même si...
Il y a une interprétation digeste derrière,
alors,
en fait.
Je vais revenir à ça, mais donc nos mesures, donc on utilise les mesures qui sont, qui sont issues des normes. C'est plutôt des mesures qui vont aller dans les normes, parce que les normes vont assez lentement, et on est obligé de développer les mesures plus vite que les normes, mais c'est des mesures qui vont être normées, de toute façon, donc, donc acceptées par la communauté scientifique, mais on les utilise dans d'une façon... on va mesurer de la façon dont l'utilisateur va percevoir la qualité. Si vous voulez, je prends un exemple très simple, c'est sur les écrans, le contraste. Le contraste, il y a une norme pour la mesure de contraste qui dit qu'un écran OLED aujourd'hui, c'est un contraste de 1 pour 1 million. Je peux vous assurer, si vous prenez votre téléphone avec un écran OLED et que vous allez dehors, vous n'avez pas un contraste de 1 pour 1 million. Donc l'utilisateur, ce n'est pas ce qu'il voit. Donc nous, on va mesurer le contraste en situation avec des éclairages, des réflexions, etc.
Oui, vous vous adaptez à nos sens, en fait, pour voir si ça marche.
On met l'objet dans sa situation d'usage et on va le mesurer dans sa situation d'usage.
Juste une chose, on a parlé des 12 Pro et du 12 Pro Max, vous allez nous donner le résultat dans un instant, mais on fait un petit teasing, etc. et vous verrez que c'est assez surprenant. Mais un mot aussi sur la croissance de votre boîte, parce que au départ, on vous connaissait sur les appareils photo, vous avez commencé à tester les modules photo, et très vite, vous vous êtes dit, ça suffit pas, il faut aller conquérir d'autres territoires.
Absolument. En fait, dans la photo, on a fait les appareils photo classiques, on est passé au smartphone, qui sont aujourd'hui nos appareils de photo, en tout cas les appareils photo du grand public. Et donc ça nous a amené à travailler avec tous les fabricants de smartphones, et eux-mêmes nous ont dit, mais on aimerait bien avoir un équivalent dans l'audio, on aimerait bien avoir un équivalent dans les écrans, et souvent leurs équipes audio, qui sont des équipes absolument fantastiques, nous disent, mais... personne n'apprécie la qualité de ce qu'on fait. Il y a des exemples de téléphones qui sont sortis avec des qualités audio absolument incroyables, et en fait, c'est passé relativement inaperçu.
Complètement inaperçu.
Et parce que personne n'était
exactement... Mais quand vous parlez de qualité audio, c'est quoi ? C'est l'amplification ?
Alors,
c'est la qualité des haut-parleurs ? Parce qu'en fait, l'audio aujourd'hui, dans un smartphone, il y a plusieurs moyens d'accéder à l'audio.
Absolument. Donc aujourd'hui, on évalue uniquement les haut-parleurs et les micros.
D'accord.
De l'audio. Donc, pas les headsets.
Donc, c'est la restitution sonore du téléphone.
La restitution sonore
quand je me
mets
en mode ampli, quoi.
C'est ça, exactement. Et la captation sonore quand vous faites un enregistrement audio ou vidéo.
Bien sûr. Et avec la stéréo qui arrive maintenant sur la captation vidéo.
Alors, vous savez qu'il y a pas mal de micros sur un téléphone. Donc, ils sont en théorie capables de bien enregistrer en stéréo. Aussi, de gérer le masquage avec des doigts. Parce que vous avez facilement mis un doigt devant un micro.
Et ça, c'est des algorithmes.
Et donc, ça, c'est les algos qui vont utiliser tous les micros du téléphone pour essayer de faire une captation stéréo de qualité, etc.
C'est
plus ou moins bien fait.
Ouais.
Puis, par ailleurs, là, quand vous utilisez votre téléphone pour faire un enregistrement, vous n'avez pas un ingé son qui est là pour vous régler votre environnement sonore. Donc, c'est au téléphone, en fait, de déterminer ce qu'il faut capter de l'audio de la scène. Et si vous êtes dans un restaurant, vous avez des bruits de couverts, etc. Vous voulez, par exemple, faire une vidéo de votre ami en face.
Mais il ne faut pas entendre
entendre votre ami parler et pas forcément les couverts à côté.
Donc, il y a une directivité, je sais pas si c'est comme ça.
C'est ça, c'est une directivité et qui dépend du contexte.
D'accord.
Parce que si vous faites la même chose dans un concert, vous ne voulez pas peut-être juste entendre le chanteur, vous voulez aussi entendre là pour le coup les instruments et relativement bien les localiser. Donc tout ça, ce sont des algos qui vont utiliser, qui vont essayer de comprendre le type de scène et faire une captation audio la meilleure possible.
Mais ça, les constructeurs n'achètent pas ça sur des étagères, en fait, ces algos, c'est eux qui les...
Bien sûr, alors il y en a certains qui les développent eux-mêmes, il y en a d'autres qui achètent donc qui ont des sous-traitants qui leur fournissent ce genre d'algo, les micros, etc. Bien sûr, et donc nous, ça nous amène aussi, de fait, à travailler avec leurs sous-traitants, donc
c'est un très
beau marché. Donc on travaille avec les fabricants de chipsets, les fabricants, tous les sous-traitants, les fabricants d'optique, de capteurs, de micros, etc.
Et tout ça en France. Vous êtes combien aujourd'hui
en
France ?
On est 120.
On est 120.
Ouais.
Vous êtes 120. Non, parce que je dis on, mais on travaille pas ensemble. mais vous me disiez un truc intéressant quand on préparait cette interview, c'est que vous vous mettez un petit peu sur le devant de la scène en ce moment. Nous, en tant que journalistes, on commence à entendre parler de vous. Il y a des communiqués de presse qui arrivent, etc. Alors que ce que vous faites est très B2B, finalement. Votre client final, c'est pas...
Absolument.
C'est pas monsieur et madame tout le monde. Voilà.
Absolument.
Mais pourquoi décidez-vous de sortir un petit peu de l'ombre ?
Alors, en fait, c'est pour accompagner notre croissance, parce qu'on a un problème de recrutement. c'est un devis ça. On n'est pas connu, Dexmark n'est pas connu comme une société française. Et lorsque nous avons des postes, en fait, on a énormément de candidatures qui viennent de l'étranger. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas les Américains et les ingénieurs chinois, mais c'est dommage parce qu'on a un énorme vivier d'ingénieurs de qualité en France. On a d'excellents scientifiques. Il y a en plus en France quelque chose, je pense, qui est un peu de notre ADN, qui est la recherche de l'excellence. Cette recherche d'excellence, on trouve chez les grands scientifiques, mais on la retrouve aussi dans d'autres industries, l'industrie du luxe, par exemple. C'est un peu dans la culture française.
Donc il y a une signature, de l'ingénieur français.
Absolument, cette culture-là, on la retrouve dans les ingénieurs français.
Et on en parlait avec Focal, j'ai reçu le patron de Focal il y a quelques temps de cela, qui disait qu'il y a vraiment cette volonté de faire de l'excellence en France.
Exactement, donc c'est l'industrie du luxe, l'industrie de la science française, qui est une recherche de l'excellence et qui est nécessaire, dans l'approche qu'on a.
D'accord. Et ces ingénieurs donc français ne savent pas que vous existez.
Alors c'est pour ça qu'on est une petite société aussi.
C'est pour ça que vous dites coucou, on est là, peut-être qu'on a du travail pour vous.
Notre communication aujourd'hui est là pour notre recrutement, effectivement.
Très bien. Et vous cherchez combien d'ingénieurs ? Alors en ce moment avec le confinement.
Alors depuis le début de l'année, on a recruté une trentaine de personnes. Alors effectivement, l'actualité Covid nous a amené à ralentir, notre recrutement et notre croissance. Mais on maintient une croissance et assez rapidement, j'espère, on sera à mesure à nouveau réouvrir les postes.
D'accord. On parle de plusieurs dizaines de postes.
On
en
a embauché 30 personnes depuis le début de l'année.
D'accord. Et l'année prochaine,
j'espère qu'on va pouvoir continuer à rythme au moins aussi soutenu, sinon plus.
Appareil photo, on l'a dit, qualité audio, écran, quels sont vos domaines de compétences aujourd'hui ? Il y en a d'autres ou pas ? Je vois que, par exemple, vous commencez à tester les enceintes connectées.
Alors, les enceintes connectées, c'est l'audio, donc il y a une certaine signature. On est dans l'image et l'audio aujourd'hui.
Mais c'est pas que le smartphone, multimédia. C'est ça que vous voulez dire ? C'est que vous sortez du smartphone.
Alors, effectivement, c'est la première fois où on sort, de l'appareil photo ou du smartphone. Le smartphone étant un super appareil photo, on va dire, d'un certain point de vue. Donc c'est un nouveau marché, d'un certain point de vue pour nous. Mais c'est un marché intéressant parce qu'on va retrouver les acteurs du numérique. Les enceintes connectées, les acteurs numériques y vont. Alors, un certain nombre de raisons.
Oui. Amazon et Google, et Apple, etc., qui ne sont pas des spécialistes du son au départ.
Qui n'étaient pas des spécialistes du son et qui vont rencontrer justement les grands acteurs de l'audio.
Et qui vont se frotter.
Donc on va avoir les acteurs historiques, les acteurs du numérique qui vont se rencontrer et c'est à ce moment-là qu'il y a des innovations absolument incroyables. C'est un peu l'histoire qu'il y a eu il y a quelques années dans l'appareil photo où les Canon Nikon ont rencontré les acteurs du numérique. Donc, c'est une époque absolument intéressante au niveau des enceintes connectées parce qu'il se passe plein de choses. Il faut voir, dans une enceinte connectée, il y a plein de haut-parleurs.
Plein de micros.
Quand moi, j'avais acheté mes enceintes, j'étais fier d'avoir 4 haut-parleurs par enceinte. Voilà, il y en a je ne sais pas combien. Il y a des micros. Évidemment, il y a des micros parce qu'ils vont adapter la restitution de l'audio en fonction des réflexions dans la pièce, etc. Il y a énormément de technologies, ça bouge très vite. Et quand ça bouge très vite, il y a de la complexité. Et pour appréhender cette complexité, il faut des mesures. Et c'est là où on est là.
C'est ça qui est passionnant. On va revenir quand même au smartphone, parce que c'est ce pourquoi vous avez été connu, c'est la qualité des caméras. Vous êtes ingénieur vous-même, d'ailleurs.
Absolument,
on sent que vous parlez avec passion de tout ça et vous n'êtes pas du marketing, quoi. Enfin,
je suis un ingénieur de l'image.
Voilà, vous êtes un ingénieur.
Je ne suis pas trop audio, je suis de l'image, mais on a des spécialistes audio dans la société.
Et dites-moi, quels sont les meilleurs smartphones du moment si on veut le top du top en matière de photo ?
Alors, le top du top aujourd'hui, enfin notre top, c'est le Huawei Mate 40 Pro. Alors c'est
le Mate 40 Pro de Huawei.
De Huawei,
qui
c'est
sorti
le numéro 1.
Il y a quelques semaines de cela.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est notre numéro 1. Après, on va retrouver un Xiaomi.
Alors le problème du Mate 40 Pro, c'est que privé des services Google, c'est un téléphone qui est, on va dire, quasi disqualifié.
Effectivement, c'est-à-dire qu'il est très bon d'un point de vue caméra, mais est-ce que c'est un bon téléphone pour autant ? C'est une question parce qu'il manque un certain nombre de services, Huawei fait tous les efforts pour, je pense, compenser la chose. Et c'est vrai que c'est un peu dommage ce Huawei One parce que ça ralentit un acteur qui est assez innovant et qui arrivait avec des produits de qualité. Donc ça biaise un peu la compétition. Mais je pense que malgré tout, D'autres veulent prendre la place de Huawei, donc ça va relancer une certaine compétition.
Quand vous dites que Huawei est numéro 1, ils sont vraiment numéro 1 de loin par rapport au numéro 2, au numéro 3 ?
Non, pas de loin, même si gagner quelques points sur notre score, c'est difficile. En fait, disons, le top 5, on va dire, de nos scores, ce sont des caméras de qualité. Y a pas de, après, on va avoir des petits différenciants. Donc, vous avez le Huawei qui est de bonne qualité, de bonne monture, de plus homogène, et qui a en plus une capacité de zoom absolument incroyable. Donc le numéro 2 qui est un Xiaomi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire une qualité de zoom, c'est-à-dire qu'ils vont miser sur des zooms, la capacité de faire des zooms, donc le zoom donc, du grand angle au téléobjectif, ce qui est une poisse technologique pour mettre ça dans ce genre de téléphone. Là où, par exemple, Apple mise un peu moins sur le zoom, même si c'est les premiers qui ont fait la promotion.
Mais parlons-en d'Apple, c'est intéressant parce que finalement, on n'a pas l'impression qu'ils font partie des meilleurs smartphones avec caméra. Alors, tout est relatif, bien évidemment.
Effectivement, ils sont.
On prend le Pro, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Apple vante les mérites en fait de ces appareils photo. Aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs.
Alors, ce ne sont pas les meilleurs. S'ils sont très bons pour de la qualité générale de photos, images, mais ils offrent un zoom de moins de grande puissance.
Et comme ils n'ont pas ce zoom, ils perdent quelques points.
Alors, même s'ils avaient un zoom similaire, ils seraient quand même aujourd'hui un peu en dessous, mais on parle de relativement petites différences. Donc, en fait, notre top 5, c'est quand même des caméras de qualité. Vraiment de qualité.
Et Apple est dans ce top 5 ou pas ?
Apple est dans ce top
5. Non, mais c'est intéressant. Il y a une différence entre le 12 Pro et le 12 Pro Max, puisque le 12 Pro Max.
Alors effectivement, le 12 Pro Max a notamment un zoom un peu plus fort.
Un peu plus puissant.
Un peu puissant, absolument.
Et des capteurs plus grands, d'après ce que j'ai compris.
Absolument. Donc il y a des petites différences qui font qu'il gagne un tout petit peu par rapport au 12 Pro.
Vous qui êtes là-dedans, qui avez la tête dans le guidon dans toutes ces innovations, j'imagine que vous arrivez à voir l'avenir aussi. Est-ce qu'on va avoir des ruptures impressionnantes dans les mois qui viennent dans le smartphone ou pas ? Est-ce que vous voyez des choses arriver
On voit plein de choses arriver et on ne peut pas trop les communiquer parce qu'on est sous le couvert de confidentialité.
Non, mais sans parler de marque, bien évidemment. Non, peut-être des innovations. Dans quelle direction on va, sans rentrer trop dans les détails.
On travaille avec les fabricants, notamment, enfin les sous-traitants, donc notamment les fabricants de chipsets, qui eux travaillent aujourd'hui sur les chipsets de dans 4 ans. Donc on a une certaine visibilité de ce qui arrive, disons, dans les téléphones dans 4 ans. Maintenant, une rupture, c'est pas juste une technologie, c'est aussi une acceptation, une adoption, pardon, par le grand public. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut maîtriser.
Mais à votre avis, d'ici 4 ans, qu'est-ce qui va faire que on va trouver quelque chose de révolutionnaire dans le smartphone.
Alors, je pense que déjà, sur les caméras, la qualité n'est pas encore là par rapport à...
Il y a une marge de progression. Ou au Pouillet.
Ah oui, elle est importante. Alors, vous avez plein de comparaisons d'images aujourd'hui, où vous avez un smartphone versus un réflexe, où l'image du smartphone est très bonne. La différence entre le smartphone et le réflexe, quand même, c'est que le réflexe, vous savez, vous êtes sûr de la qualité que vous allez avoir. Moi, quand j'utilise encore un Flex, j'utilise de plus en plus rarement, il est vrai, mais c'est pour les occasions spéciales, c'est parce que je veux être sûr d'avoir la photo que je veux, et sans artefact, pas d'échec, je veux vraiment, avec le Flex, je connais les limites du Flex, il a des limites, il ne faut pas quoi croire, mais dans ces limites-là que je connais, je suis sûr d'avoir la qualité que je veux. Un téléphone, en général, en moyenne, c'est bon, mais de temps en temps, il y a des artefacts parce qu'il y a des algorithmes extrêmement puissant, mais qui, de temps en temps,
mélange plusieurs images avec des artefacts. À votre avis, ce qui va se passer dans les 4 ans, c'est ça ? C'est qu'on va, rejoindre la qualité d'un réflexe sur un smartphone ? C'est possible ou pas ?
Oui. C'est possible. Alors, ça ne va pas remplacer le réflexe pour autant, mais pour le grand public, ça va remplacer le réflexe. J'en suis convaincu.
Et ça arrive quand, ça ? Dans un an, deux ans, trois
ans ? Dans quelques années.
Dans quelques années. Ouais. Vous avez déjà des indicateurs...
Alors les réflexes progressent aussi, si vous voulez. Donc, y a une course comme ça, les réflexes progressent, les téléphones progressent, les téléphones pour le grand public, encore une fois, je parle vraiment pour le grand public, vont passer au-dessus des réflexes un jour ou l'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Pour maintenant, vous, c'est intéressant ce que vous dites.
Le réflexe a un autre usage. Si vous voulez, le téléphone, un téléphone, c'est intéressant, Donc, il a été numérisé. La caméra était complètement numérisée. C'est-à-dire que tous les traitements numériques gèrent la caméra. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande au téléphone aussi, c'est de numériser le photographe, en fait. C'est deviner l'intention.
Oui, bien sûr. De prédire, en quelque sorte.
C'est, quand vous faites une photo, c'est de deviner quelle photo vous vouliez faire.
Et d'adapter les réglages en conséquence.
Exactement. Et quelles sont les parties importantes dans l'image, éclairer les parties importantes pour attirer le regard sur ces parties importantes, etc. Ça, c'était le boulot du photographe ou du tireur, d'antan.
Et là, maintenant, c'est l'intelligence artificielle.
Il faut que ça soit fait par le téléphone.
Ouais. Donc, alors, et c'est le Pixel qui fait ça de manière impressionnante.
Pixel, ils ont un très bon marketing. Donc, effectivement,
oui, voilà, c'est ça.
Et ils ont mis ça en avant. Mais tous font ça, plus ou moins. Maintenant, moi, si je suis photographe, là, je suis plus grand public, je suis photographe, j'ai pas envie qu'on écrive mon histoire.
Donc, je veux garder la main sur
l'histoire. Je veux pouvoir écrire l'histoire que je veux. Ouais. Et donc, c'est le réflexe.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, voilà, petit à petit, le smartphone rattrape son retard sur le réflexe.
Alors, ça aura mis peut-être 20 ans.
Oui, mais on y arrive, et
j'avoue que chaque année, je suis étonné.
Frédéric, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans De quoi je me mêle. On pourrait parler avec vous pendant des heures sur ces sujets. On aura sans doute l'occasion d'échanger encore sur tout ça.
Bien volontiers.
DxOMark, donc. Voilà, allez sur le site, vous verrez, c'est passionnant. Hein. Vous avez des benches sur énormément d'appareils et tout ça est français. Donc, répétons-le encore une fois, on a des pépites françaises géniales. Merci beaucoup, Frédéric Guichard.
Merci bien.
Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Fidèles, comme chaque week-end, portez-vous bien et on sera là bien sûr la semaine prochaine. À très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.